Bonsoir, donc, je suis Élise Judel, je fais partie du collectif de chercheurs NORIA, qui est un think tank qui est dédié à la recherche de terrain, la diffusion, l'écriture, le financement, mais aussi à l'organisation de formations pour des jeunes masterants et doctorants qui sont en train de mettre en place leur terrain de recherche. Je suis tout à fait ravie d'être là ce soir pour présenter l'ouvrage de Charlotte Thomas, donc Pogrom et Ghetto, les musulmans dans l'Inde contemporaine. Je suis ravie parce que j'ai un attachement tout particulier aux deux institutions qui sont là, donc Kartala et aussi Noria, donc c'est vraiment un moment très chouette. Donc Charlotte Thomas est docteure en sciences politiques, elle est actuellement en postdoc au CERI, si je ne m'abuse. Et elle dirige le programme Asie du Sud de Noria, qui est un programme absolument passionnant. Je vous recommande vivement d'aller voir sur notre site internet, très dynamique. Et donc Ingrid Terwatt, qui est donc journaliste au Courrier International, et non pas au monde diplomatique. Je vais brièvement vous présenter l'ouvrage de Charlotte, en tout cas les grandes lignes que j'en ai tirées avec mes multiples post-it. Et si je dis une bêtise, tu m'arrêteras. Mais en fait, Charlotte, dans son livre, nous peint, elle nous raconte une histoire, une réalité de ce que c'est que la vie dans le ghetto musulman de Johapura, c'est ça qu'on prononce, Ahmedabad, dans l'état du Gujarat, en Inde. Ça commence par un terme que j'aime énormément, qui est une archéologie de la domination. C'est-à-dire qu'elle nous expose comment ce lieu, qui est un carrefour des religions, donc non seulement le Gujarat, mais Ahmedabad en particulier, qui est une ville à l'histoire partagée entre l'hindouisme et l'islam, et que même si les musulmans représentent la minorité la plus pauvre de ce lieu, c'est une ville à la base qui est sans communauté, c'est ce que je comprends, mais vraiment partagée plutôt au niveau social, donc par caste et par statut social initialement. On continue le fil de l'histoire au fur et à mesure des chapitres, ce qui nous amène à la deuxième moitié du XXe siècle. Et là, Charlotte tisse une espèce d'historicité des émeutes, de la construction de murs au fur et à mesure, des discriminations qui s'enchaînent, ce qui nous amène jusqu'aux années 90 et l'élection du parti BJP, donc qui est un parti nationaliste hindou, au pouvoir au Gujarat. Et les émeutes nationales de 92, les émeutes anti-musulmans de 92, qui ont vraiment marqué les esprits à ce moment-là. Et là, on commence à voir clairement se dessiner la discrimination comme une politique publique, en fait, au sein de l'État, mais de la ville en particulier. Ce qui nous mène à ces accès de violence des années 90. Et d'abord, on voit cette violence, on la voit des deux côtés. Donc il y a un chapitre qui est dédié à la violence du point de vue des personnes qui la font, des attaquants, et l'émeute qui est vraiment présentée comme un outil politique à ce moment-là, avec un laisser-faire, voire un faire des institutions, avec le rôle de la police, le rôle des médias, etc., qui sont expliqués de façon très, très claire. Puis on passe de l'autre côté de la violence, dont ceux qui la reçoivent, avec ces expressions dont Charlotte a le secret, qui sont, je trouve, très fines, de la violence sur le corps musulman, et comment ces corps s'incarnent, et comment ils subissent la violence. Et aussi cette dimension d'une communauté de souffrance, qui est peut-être, tu pourras nous en parler un peu plus après. Dans la manière la plus tangible, elle nous explique aussi comment les secours face à cette violence, et toute la société à l'intérieur qui subit cette violence, se privatise au niveau de la manière dont on réagit. Donc le rôle de différents acteurs dans la privatisation du secours et dans l'insécurisation, j'ai réussi à le prononcer, grandissante au sein des communautés. Et là, on rentre vraiment dans Johapura, dans ce bidonville qui est devenu un ghetto. Et là, Charlotte nous peint une géographie de la discrimination avec les frontières, les murs qui se construisent, cette notion de confinement que ressentent les habitants du ghetto, qui est de plus en plus fort. Et se pose la question du rôle de l'État ou de l'absence de rôle de l'État. Et là, c'est un chapitre complètement fascinant sur la privatisation des services publics au sein du ghetto. Comment cette précarisation et ce stigmate vraiment s'incarnent par ça. L'économie propre au ghetto, avec la présence de camps, ces camps qui, et ça c'est quelque chose qui m'a fasciné, qui sont de plus en plus dépendants des organisations islamiques, et donc quand même qui sont face à une forme de prosélytisme à l'intérieur du camp. les résistances au quotidien, comment est-ce qu'on peut ou pas se servir du droit pour se défendre face à ces discriminations. Et puis business as usual, l'ouverture de banques, de magasins, d'écoles au sein de ce ghetto qui a un lieu de non-droit, qui n'a pas de cadastre, qui n'a pas de plan de planification urbaine. Mais cependant, on voit que le business as usual y reprend, les écoles, comme je disais. Et le livre finit sur une note assez peu encourageante, on va dire, qui pose la question de... est-ce que dans cette Inde de Narendra Modi, où le nationalisme hindou vraiment fait une distinction, est de plus en plus en train d'enlever une distinction entre la notion d'indianité et d'hindouité, donc être indien, est-ce que ça veut nécessairement dire être hindou? Et cette manière de créer vraiment des citoyens de seconde zone, est-ce que ça est en train de se perpétrer au niveau national dans cette Inde du 21e siècle? Donc voilà, j'ai déjà trop parlé, je vous laisse la parole, mesdames, j'espère que j'ai fait honneur à ton livre.
Merci, oui. alors moi aussi je suis très contente d'être là parce que j'ai suivi la jeunesse de cet ouvrage qui fut une... Comment ?
De cette personne.
De cette personne, de cette... Non, quand même pas, mais en tout cas de ce livre qui fut une thèse et qui avant fut un travail de master. Et c'est à ce moment-là quand elle a commencé à... Un peu avant, en fait, même, que j'ai rencontré Charlotte, entre le CERI et Courrier International, justement. Donc, c'est vraiment la boucle est bouclée au moment où justement, les violences intercommunautaires, les violences en Inde se rappellent à nous avec des anniversaires assez tristes, notamment celui des attentats de Bombay il y a un an. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les questions d'ethnicisation de la politique en Inde, mais de l'autre côté, du côté extrémisme hindou. Et donc ça m'a fait très plaisir de lire ta thèse avant, puis ton bouquin, et d'être là aujourd'hui. Il faut savoir que Johapura, on ne se rend pas forcément compte, mais c'est un ghetto d'un demi-million de personnes. Donc c'est vraiment, on ne parle pas d'un micro-quartier ou d'un micro-phénomène, mais d'une construction d'une ampleur quand même assez massive, comme souvent en Inde certes, mais quand même qui fait figure d'exemple, parfois cité comme laboratoire même, et qui en réalité est un endroit, un espace important. Alors, ce livre, on l'a dit, est un récit, c'est aussi une analyse et un outil qui offre des pistes de réflexion pour comprendre ce qui se passe dans d'autres ghettos, dans d'autres pays, avec d'autres politiques publiques, et qui permettent de réfléchir aux mécanismes de domination plus généralement. Et la première chose qui me frappe, moi, dans ce livre, c'est son titre. On n'en a pas parlé encore, mais « Pogrom et ghetto », quand on écrit en français, quand on publie en France un ouvrage sur les violences, utiliser ces mots-là, ça n'a rien de neutre, ce sont des mots qui charrient avec eux des connotations très fortes et très lourdes, politiquement... affectivement aussi, et qui rattache l'histoire des violences en Inde, là, à une histoire aussi européenne, mondiale en réalité, de l'antisémitisme notamment, parce qu'il y a des... Et ça me fait dire qu'on voit à travers ce travail, qu'il laisse présager des parallélismes, des convergences aussi, et des parallélismes sur les dominations. Alors, ce qui est frappant aussi avec Johapura, en dehors de sa taille, c'est que Johapura procède de ce que tu appelles une nouvelle mise en ordre du monde, avec d'un côté, à l'intérieur de Johapura, les musulmans, et d'un autre côté, ou plutôt, plus exactement, de tout autre côté, de tous les autres côtés, tout autour, la majorité hindoue. Donc il y a ce sentiment d'encerclement, d'enfermement qui est propre à la notion de ghetto. Alors, vers toi, je vais faire semblant de se vous voyez. On s'en est parlé au téléphone avant, on s'est dit qu'on n'allait pas être dans cette hypocrisie-là, donc je me tourne vers toi. Et je vais te poser la première question, qui est c'est celle d'un paradoxe. Le ghetto, évidemment, enferme, c'est sa vocation première. Mais en enfermant, parfois, il protège. Et c'est ce qui s'est passé, puisque Johapura est un quartier ethnique, jusqu'au pogrom de 2002, je ne veux pas dire émeute exprès, je vais utiliser le mot pogrom. Les musulmans se sont retrouvés là, on les a fait se retrouver là, et parfois ils se sentent en sécurité, paradoxalement dans le ghetto. Est-ce que tu peux nous raconter ce paradoxe du ghetto qui enferme mais qui protège en même temps ?
Oui, et juste avant de répondre, du coup, je vais moi aussi donc déjà vous saluer, vous dire bonsoir et remercier Enoria et notamment Alice, Béatrice et Baron pour avoir organisé cet événement, Cartala et l'ISM. Voilà, je voulais quand même dire ça. Donc, pourquoi le ghetto qui enferme et qui protège ? Parce qu'en fait, après ce ghetto, pourquoi déjà on parle de ghetto ? Parce qu'avant les violences de 2002, ce n'est pas un ghetto mais un quartier musulman défavorisé. Il se transforme en ghetto à partir de 2002 puisque les classes supérieures, auxquelles Alice a fait référence tout à l'heure, se regroupent en fait dans Djouapoura pour se protéger des violences et ils cherchaient ce qu'ils appellent ce que je considère être un entre-soi ethnique qui est considéré comme protecteur, puisqu'en restant entre-soi, on met l'attaquant, entre guillemets, ou en tout cas, les attaquants, à distance. Et ils protègent à cet égard, puisque quand on est dans le ghetto, dans lequel je pense qu'on y reviendra, mais on développe soi-même ses propres institutions, c'est-à-dire les écoles, les services publics, on n'a plus besoin de sortir en fait de ce ghetto pour aller chercher ces services publics et ces biens, et du coup s'exposer à des dangers potentiels, parce que un des événements très forts de 2002, c'est que beaucoup de musulmans qui ont été victimes directes, c'est-à-dire physiquement ou pas, mais qui ont été victimes au sens large puisqu'ils ont vu ça se passer dans leur ville, témoignent tous du fait de l'insécurité permanente de devoir sortir de chez soi pour acheter à manger, pour se rendre à l'école, puisque pendant toutes les violences les écoles n'ont pas été fermées, aucun service public n'a été fermé, ni les écoles, ce qui a d'ailleurs posé des problèmes après pour les élèves musulmans. Donc c'est à cet égard en fait que le ghetto protège, il confine aussi, puisque comme on l'a dit en fait, Djouapoura est un quartier musulman mais entouré de quartiers hindous qui se sont créés notamment après les émeutes, donc il confine, mais paradoxalement il est aussi, j'anticipe peut-être un peu, mais il est aussi une porte vers l'extérieur, puisque dans le cadre des émeutes, où toutes les relations économiques entre les hindous et les musulmans ont été coupées à cause des violences, les musulmans les plus aisés se sont redéveloppés vers les pays du Golfe, ont redéveloppé des liens économiques vers les pays du Golfe. Donc il y a toutes ces dimensions de confinement et d'encerclement qui sont à prendre en compte.
Et voilà, tu parles aussi de la culture du ghetto. Mm-hmm. Et donc comme ce confinement a forcément engendrer des stratégies de contournement, de remplacement des services publics et une culture spécifique. C'est greffé sur quelque chose. Qu'est-ce qui en est né en fait ? C'est quoi la culture du ghetto de Djouapoura ?
Oui. Alors déjà, bon, j'emploie le mot culture sans avoir de vocation culturaliste, c'est-à-dire avec des guillemets, et en disant bien que cette culture est rattachée à un lieu, elle se transmet, elle se véhicule pas par les musulmans, elle se véhicule par le ghetto. Et dans ce ghetto, en fait, ce que je considère être comme culture, c'est-à-dire qu'il y a eu deux séquences. Entre 2002 et 2005, il y a d'abord un plus grand activisme des acteurs religieux, enfin des ONG islamiques, qui là en fait ont eux un discours plus conservateur et plus religieux, notamment à l'adresse des femmes. À partir de 2005, les castes supérieures auxquelles j'ai déjà fait référence, qui se sont installées dans le ghetto, eux commencent en fait à retrouver un niveau économique satisfaisant et puis à laisser un petit peu derrière eux le traumatisme premier des violences. Donc à ce moment-là, ils commencent à développer le ghetto et surtout à mettre l'accent sur l'éducation. Et en fait, il y a deux aspects dans cette culture du ghetto, c'est vraiment l'éducation comme porte de... comme seul moyen en fait d'empowerment, pour employer un terme extrêmement français, donc seul moyen d'empowerment pour en fait pouvoir s'échapper à l'avenir de peut-être violences potentielles. Et c'est très important parce que les habitants de Djouapoura évoquent vraiment cet accent porté sur l'éducation, notamment des filles, ce qui est un fait nouveau, et également l'éducation supérieure, c'est-à-dire pas uniquement aller jusqu'au premier niveau, c'est-à-dire le collège ou le lycée, mais également essayer de former des musulmans pour passer les concours de la fonction publique par des cours du soir, enfin des choses comme ça. Donc c'est cette culture vraiment de compter sur soi, d'une part, donc pas de rejet des institutions à proprement parler, mais de faire comme si les institutions n'étaient pas présentes pour nous. Et puis oui, d'accent porté sur l'éducation et comme je disais, enfin je répète parce que c'est important, sur les jeunes filles aussi.
Alors, j'aimerais bien qu'on revienne après à la question sur l'action du genre. Mais avant ça, tu parles de communauté, tu parles de musulmans comme d'une catégorie. Mais je pense que ça mérite peut-être qu'on en parle. Ça ne me paraît pas être des catégories évidentes, ou en tout cas nécessairement construites, voire fantasmées, voire des fictions qu'on s'impose ou qu'on impose. Donc, est-ce que tu peux nous parler à la fois de la notion de communauté, comment cette notion a été introduite et utilisée, et puis cette catégorie très problématique de le musulman, voilà, ou la musulmane.
ce qui avait d'ailleurs fait l'objet de débats lors de la conférence. Donc, pour, en fait, je considère, en Inde comme partout dans le monde, il n'y a pas de communauté musulmane si on considère qu'une communauté est un groupe uni par des intérêts communs et des pratiques communes. En revanche, il y a ce que je considère Ajwapura, une communauté situationnelle, c'est-à-dire qu'elle est adossée au fait de vivre dans le ghetto. Et d'ailleurs, quand on part du ghetto, ces liens se distendent. Et en contrepoint aussi, il y a un autre quartier, qui là pour le coup est un quartier, mais pas un ghetto, musulman, à Ahmedabad, dans la vieille ville. Et eux, par exemple, ne se sentent pas du tout liés avec les musulmans de Ajwapura. Donc vraiment, pour déconstruire la notion de communauté. Donc il y a une minorité musulmane qui fait communauté d'habitants au sein de Ajwapura. Et en revanche, au sein de Ajwapura, il y a des sous-communautés, là, pour le coup, plus musulmanes, c'est-à-dire avec des pratiques religieuses communes et avec des intérêts, notamment économiques et politiques, qui sont plus congruents, surtout si la minorité est petite, je pense notamment aux chiites, parce qu'il y a trois communautés.
Vous pouvez nous expliquer la composition les sous-catégories
Alors, grosso modo, en fait, Ajwapura est principalement sunnite, à peu près 80%, je dirais. Et il y a une autre... Donc, le reste sont des chiites qui sont organisés en trois minorités, qui, d'ailleurs, eux, ont des intérêts antagonistes avec les sunnites, enfin bref. Et au sein des sunnites, en fait, on a... Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais il y a beaucoup de Sayed, de Patel, enfin, il y a des hautes castes, des castes intermédiaires et des basses castes, parce que la minorité musulmane, comme on l'a pas rappelé,
j'allais te balancer.
Comme on l'a pas rappelé, la minorité musulmane, comme la minorité chrétienne du reste en Inde, est organisée en castes, donc avec des castes supérieures censées être plutôt des descendants des premiers arrivés mongols, et puis des castes intermédiaires, voire des hors castes, qui sont eux plus des convertis en fait de l'hindouisme, qui se seraient convertis à l'islam pour échapper, sans succès, à la hiérarchie des castes propres à l'hindouisme. Et j'ajoute sur cette notion de caste qu'elle est vraiment prégnante, parce que bien que les musulmans que j'ai rencontrés, enfin certains, notamment, enfin je pense à quelqu'un qui s'appelle Azif, qui me jurait qu'il n'y avait pas de caste chez eux, etc., il n'y a pas de caste chez les musulmans, je l'ai vu en acte, puisque j'ai vu quelqu'un qui était d'une minorité, enfin d'une sous-caste musulmane, refusé de l'entrée du logement d'Azif pour des questions afférentes plus à la pureté, ce qui est quelque chose qu'on retrouve plus dans les notions de caste hindoue. Donc voilà sur les minorités et les castes.
Et du coup, est-ce qu'il y a... moi, ce que j'ai compris, c'est que la plupart des gens qui sont... Enfin, les gens qui sont venus après 2002 ont été poussés vers Ajwapura par une oppression d'un niveau extrêmement élevé. Mais évidemment, les oppressions, elles persistent. Elle persiste à l'extérieur, mais elle persiste aussi à l'intérieur du ghetto. Est-ce que le ghetto, non seulement a amené avec lui, enfin, ou les gens ont amené avec lui des systèmes d'oppression qui existaient déjà, est-ce que, en plus de ces systèmes d'oppression qui continuent, patriarcat, etc., il y a d'autres systèmes d'oppression propres au ghetto, propres à cette organisation communautaire confinée?
Alors déjà, juste, c'est pour revenir sur la notion d'obligation à se regrouper. C'est ce que je dis, en fait, je travaille beaucoup sur les perceptions, c'est-à-dire qu'il y a eu une vraie contrainte, je veux dire objective, au moment des violences où les gens se faisant tuer, c'était une contrainte plutôt objective pour se retrouver dans un ghetto. Après, il y a aussi cette contrainte, enfin, la contrainte perçue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si c'est vrai ou pas, c'est comment les habitants le perçoivent, puisque cette contrainte perçue produit un fait social, quoi qu'il arrive, qui est donc le regroupement. Au sein du ghetto, on retrouve en fait un peu ce que j'ai commencé à évoquer, c'est-à-dire, je vais revenir après sur une catégorie particulière, mais on retrouve un peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire cette notion de caste, et ce qui fait aussi, c'est une des notes un petit peu plus positives de la fin de l'ouvrage, où étant donné cet afflux de castes supérieures, qui reproduisent eux des logiques de domination à l'égard des castes inférieures, et qui en arrivant dans le quartier, certes, qui était encore un quartier, mais qui l'ont transformé en un ghetto, bref, en arrivant à Ajwapura, ont certes permis de financer des infrastructures de développement, services publics, etc., mais ont également, de fait, enchéri le ghetto. Donc les catégories les plus inférieures de la minorité musulmane qui habitent à Ajwapura se retrouvent de plus en plus, alors dans des espaces déjà, comme je dis, c'est confiné, mais sur les espaces vraiment les plus extérieurs du ghetto, Et d'autre part, certains partent vers la campagne pour, parce qu'ils ne peuvent plus se loger. Il y a également une autre forme de domination qui est importante parce que, comme Alice faisait référence dans la présentation, il y a une catégorie de population qu'on n'a pas vraiment évoquée, c'est les victimes directes. Donc ça, ce sont des gens qui ont perdu leur logement, dont la famille a été assassinée pour la plupart, enfin des membres de leur famille, et qui se sont retrouvés, eux, uniquement pris en charge par des ONG islamiques pour se faire réimplanter, entre guillemets, dans ce qu'on appelle des relief colonies, donc des logements qui ont été construits par les ONG islamiques, mais qui ont été donnés, entre guillemets, aux habitants à l'époque, sauf qu'en fait, les habitants n'ont pas jamais reçu le titre de propriété de ces logements, alors qu'ils se sont acquittés une somme pour acquérir ces logements. Donc en fait, eux sont, entre guillemets, les plus opprimés, si on peut faire des hiérarchies, parce qu'en fait, ils se retrouvent vraiment à la dépendance des ONG islamiques, puisqu'ils ne peuvent pas récupérer l'argent qu'ils ont investi dans la maison, et ils ne peuvent pas en partir, et ils ne peuvent pas la vendre, et ils ne peuvent pas non plus porter réclamation auprès de la mairie, parce qu'il y a un activisme juridique qui fonctionne ou pas, mais qui est aussi mobilisé. Ils ne peuvent pas porter réclamation auprès des institutions pour avoir des services publics dans, dans ces relief colonies, parce qu'ils n'ont pas de titre de propriété, donc ils ne peuvent pas se prévaloir de ça. Et au sein de ces relief colonies, encore plus dominées, il y a les femmes, qui ont pour beaucoup... été contraintes à des mises sous tutelle patriarcale, voire certaines ont été contraintes à la prostitution par les ONG islamiques pour avoir... Je dis oui parce que j'ai une réaction assez forte en face de moi.
Mais tu racontes, il va falloir que tu racontes.
Oui, bah, que je raconte. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, au cœur des violences, il y a quand même 2000 morts, mais 150 000 déplacés au cœur des violences. Donc tous ces gens se retrouvent dans des camps ad hoc créés par des individus musulmans, puisque l'État n'est absolument pas intervenu dans les opérations de secours. Donc ces 150 000 personnes, bon, il y en a partout dans le Gujarat, mais principalement Ahmedabad, qui est l'épicentre des violences, puisque sur 2000 morts, il y en a à peu près 1000 à Ahmedabad. Donc se retrouvent dans des camps informels où les maris ont été tués, les femmes ont pour certaines aussi, et pour beaucoup d'ailleurs également été violées, mais avec une pratique aussi particulière de viol où on essaye vraiment d'imprimer une domination, c'est-à-dire que les attaquants hindous ont eu recours à des symboles, notamment le sceptre d'Hanuman qui est un symbole très hindou pour violer les femmes, voilà. Donc ils sont quand même dans des situations traumatiques assez intenses, avec des gens qui vous racontent, enfin tout ça s'est passé devant des familles parfois, donc avec les hommes qui se font brûler vifs, enfin bon bref, donc on est dans des situations de vulnérabilité assez intenses et là on est vraiment au cœur des violences et de fait sans recours, certaines de ces femmes ont été forcées à la prostitution en échange d'accéder à un logement et de pouvoir accéder à un logement. Et elles se retrouvent aussi, en fait, dans ces logements. Pour la plupart, c'était des femmes qui avaient un emploi, donc qui étaient pour la plupart, elles sont interdites de travailler. Aujourd'hui, c'est celles qui travaillent dans les beauty parlors, enfin les salons d'esthétique, en gros. Et ça, en fait, celles qui ont été réintégrées dans ces relief colonies par les ONG islamiques n'ont plus le droit d'exercer leur profession qui est considérée comme non-islamique. Et elles ont aussi une contrainte vestimentaire, puisque elles ont dû... Enfin, les récits que j'ai recueillis, les femmes n'avaient plus le droit de porter leurs bijoux et étaient forcées à porter le voile, qu'elles ne portaient pas forcément avant. Voilà. Pour la partie domination et violence.
Mais du coup, tu parlais des victimes, des femmes qui ont été violées en 2002, mais les jeunes filles maintenant, parce que ton livre se finit aussi sur une note un peu positive à propos des jeunes femmes, des jeunes filles aujourd'hui qui trouvent des espaces de liberté au sein de Jhumapura.
Bah, c'est ça, c'est-à-dire qu'avec ce que j'expliquais tout à l'heure, tout au début, avec la remise en question du récit islamique qui était un petit peu dominant et sa remise en cause à partir de 2005 et cet accent porté sur l'éducation, de fait, alors ça crée des problèmes aussi, hein, parce que les parents envoient leur famille, leurs enfants parfois à l'étranger aussi pour étudier. Bon, j'ai assisté à des scènes où du coup, les jeunes filles reviennent avec en ayant vécu à Londres, donc on n'est plus vraiment sur les mêmes thématiques et ça donne lieu à des problèmes vraiment insolubles où les familles se déchirent, parce que les jeunes filles ne veulent pas accepter, par exemple, le mariage qu'on leur impose, etc. Mais oui, du coup, il y a cet accent porté sur l'éducation permet de s'extraire d'une certaine forme de contrainte, de domination masculine. Après, elle reste quand même présente, Et je l'ai vu, je pense que j'ai vu une amélioration. J'ai vu plus de jeunes filles, disons, sur des scooters, maquillées, entre 2009 et 2016, parce que je termine mon terrain de thèse en 2014, mais je suis retournée jusqu'en janvier 2016. Plus de jeunes filles, voilà, maquillées, qui conduisent leur scooter toutes seules, qui montent à califourchon sur les scooters et pas à l'Amazon, en Amazon, comme c'est normalement la règle. Donc des petites pratiques, en fait, qui témoignent d'une forme d'émancipation plus importante lié à cette accent sur l'éducation et cette réaction en fait aux violences.
Du coup, ça m'amène parfaitement à ma...
C'était fait exprès.
c'était sur les... Ce que je voulais te demander, c'était concernant la visibilité. Du coup, là, tu parles de ce que tu as vu, des jeunes filles qui sont en scooter, qui sont maquillées, etc. Pas en Amazon sur leur scooter, donc pas passagères, qui sont aussi conductrices. Et donc ça m'amène à réfléchir à la notion de visibilité, à la fois pour les femmes et aussi pour les musulmans et musulmanes. Quels sont les enjeux de cette visibilité que donne le ghetto, un peu malgré lui, à son corps défendant, presque. Le ghetto donne forcément une visibilité à la communauté en la marquant dans l'espace, en même temps peut être un espace d'affranchissement ou de développement, en tout cas communautaire, avec ces grosses ONG dont tu parlais, avec une affirmation de soi, donc une visibilité. Et politiquement, socialement, quels sont les problèmes que ça soulève ou les espoirs aussi que ça suscite ?
Ouais, enfin déjà, c'est-à-dire qu'il y a une ambivalence parce que les habitants sont en même temps, vont vous dire Joa Pula is a label parce qu'ils sont en fait, je vais revenir justement un peu plus près, mais ils sont en même temps très fiers et certains sont aussi, se sentent, ont conscience d'habiter dans un quartier de relégation où les services publics n'arrivent pas et de subir une discrimination à l'échelle de l'État fédéral, j'entends. Politique. Après, il y a cette forme de visibilité, elle est aussi liée au fait qu'il y a un discours de fierté qui s'est développé très fort, parce que comme on l'a déjà évoqué, mais les hautes castes sont arrivées, donc des officiers de police supérieure, ou des pilotes d'avion, ou des entrepreneurs, enfin des gens riches qui sont en fait mis en exergue comme, en gros, on vous dit, voyez, maintenant chez nous, il y a plus que on n'est pas que des pauvres, il y a aussi des gens bien, etc. De la part des habitants. Je paraphrase leur discours. Donc il y a cet enjeu en fait, et effectivement il y a des papiers sur Joa Pula, il y a des articles sur Joa Pula qui les mettent en visibilité, et cet enjeu de, enfin, et au sens politique, je pense, cet enjeu est pas, comment dire ça, c'est-à-dire que Joa Pula est plutôt regardé sur est-ce que ça va être répliqué ailleurs, est-ce que c'est une forme de ségrégation vraiment très très forte qui est répliquée ailleurs en Inde ou pas, mais pas par exemple, il n'y a pas d'enjeu politique sur les voix ou sur le vote musulman, c'est un quartier qui est pas du tout qui n'intéresse pas du tout les autorités à cet égard. En revanche, dans ce quartier, dans ce ghetto, vivent aussi des, comme je l'ai dit, des membres de la communauté chiite notamment, mais aussi des entrepreneurs, des gens qui sont plus versés notamment dans les activités économiques, ce qui est quelque chose de très important pour Narendra Modi, donc l'actuel Premier ministre, mais qui était également le ministre en chef du Gujarat pendant ses pogroms, et qui lui, en fait, essaye de trouver au sein de la minorité des personnes relais pour faire le relais d'un point de vue entrepreneurial et business avec les pays du Golfe, puisque est organisé au Gujarat le Vibrant Gujarat Summit, donc un sommet international économique et financier qui a notamment vocation à développer les liens économiques avec les pays du Golfe, puisque c'est les voisins directs. Donc il y a cet enjeu aussi, où on essaye de montrer, de prendre des relais chez ces musulmans, ce qui crée aussi des frictions au sein de la minorité. Je ne sais pas si j'ai répondu.
Ouais. Et j'ai encore une question.
Bah, j'ai plein
de questions. Exactement.
C'est le job.
On a évoqué, mais un peu rapidement, un peu en passant, les ONG islamiques. Ouais. Et c'est évident que là où il y a un vide laissé par l'État, là où l'État va retirer les services publics à des citoyens parce qu'il va les considérer comme des citoyens de seconde zone, les mettre hors hors du droit, hors de l'État finalement, c'est évident que ce vide ne va pas rester vide et que des organisations déjà établies vont le remplir. Et souvent les organisations religieuses, c'est le cas chez les hindous, c'est le cas chez les musulmans, c'est le cas aussi chez les chrétiens, mais les organisations religieuses pallient les manques de l'État dans bien des pays, y compris la France, et offrent des services publics, enfin ce qui peut s'apparenter à des services publics, et investit notamment dans le champ de l'éducation. Donc je voulais que tu nous racontes un peu, et de la santé. Comment ça se passe à Djouapura? Qui sont ces organisations islamiques? Comment elles travaillent? D'où elles viennent? Qui elles sont?
Ok, alors, ces ONG islamiques s'appuient sur des djamats islamiques. Donc les djamats sont beaucoup plus anciennes, j'entre pas quand même trop dans les détails, mais ces djamats ont globalement été construites et créées au début du XXe siècle. Ces djamats sont vraiment à la base des organisations religieuses avec une vocation de réforme de l'islam et une aussi de formation des oulémas. Et justement, pour rebondir aussi sur cette notion de pallier le vide, certaines, en fait, en 2001, a lieu un tremblement de terre au Gujarat et qui, où des hindous et des musulmans sont victimes. Or, les victimes musulmanes sont moins secourues que les victimes hindous. Et c'est l'occasion pour deux de ces djamats, justement, de se convertir en ce qu'elles appellent elles-mêmes ONG islamique. Et ONG est un terme qu'elles emploient, en fait, que je déconstruis d'ailleurs dans mon travail, mais qu'elles emploient elles-mêmes comme labellisation parce que pour témoigner d'une professionnalisation de leur pratique, qui en réalité doit être déconstruite, et surtout, en fait, pouvoir prétendre à des... aux appels d'offres qui sont ouverts par les ONG internationales pour aider sur place en 2002, là pour le coup, les autres ONG plus classiques qui interviennent auprès des victimes. Donc ces ONG, notamment, alors c'est elles qui fournissent comme on l'a déjà évoqué, mais c'est elles de pair avec des individus, parce que le secours aux victimes c'est aussi fait sur des bases complètement individuelles et complètement spontanées, juste parce que ça se passe en bas de chez les gens et que, enfin, le camp sont en bas de chez eux et que les musulmans y vont. Donc il y a une part individuelle et une part, comme je l'ai dit, d'ONG qui capte, elle, en fait, le marché des victimes, enfin c'est comme ça que je l'appelle, le marché entre guillemets des victimes, qui fait des recensements dans les camps et qui prend d'ailleurs en charge principalement les veuves pour les raisons déjà évoquées tout à l'heure. Donc effectivement, ces ONG, ces ONG ou djamat islamiques, jusqu'en 2005, comme j'ai déjà aussi donné ce repère, sont complètement seules sur le terrain. Donc du coup, elles ont vraiment la main sur le discours identitaire, entre guillemets, qu'elles formulent, et sur le fait que, comme je l'ai entendu à plusieurs reprises, les événements de 2002 sont aussi une riposte, parce que les musulmans n'étaient pas des bons pratiquants, n'étaient pas des bons chrétiens. L'exemple des femmes qui portent les musulmans n'étaient pas des bons chrétiens. Ce qui n'est pas faux.
Non, c'est pas faux.
Du coup, donc les musulmans n'étaient pas des bons musulmans, du coup. Les femmes portaient des djinns et les victimes sont plus des shahids, donc des martyrs pour une cause qui les transcende. Donc ce discours était très présent. Après, comme je l'explique aussi, comme c'est le discours séculariste, donc qui met l'accent sur l'éducation et le développement par soi-même, se développe et commence à concurrencer ce discours strictement islamique, entre guillemets, en fait les ONG et djamat islamique maintenant se regroupent notamment dans un quartier qui s'appelle Fateh Valley, qui lui est le plus pauvre en fait de Djouapura, qui est vraiment sur les extérieurs de Djouapura, où là pour le coup on réplique la même chose, c'est-à-dire que ce sont des populations qui n'ont pas accès aux services publics, parce que c'est ça, c'est pas que qu'on a retiré les services publics de Djouapura, c'est qu'on les a jamais mis en œuvre en fait. Il y a par petites touches, c'est pour ça que je dis que l'État n'est pas absent, il a une absence contrôlée, au sens où il y a 4 écoles primaires, donc pour 1,5 million d'habitants c'est pas assez. Et donc dans ce quartier de Fateh Valley, là on retrouve en fait la même chose, de ce travail aussi prosélyte en fait des ONG islamiques, qui, comme je l'ai déjà observé et écouté, en fait vont dire tu peux pas payer ta facture, non, te paye ta facture, mais du coup faudrait que t'arrêtes de mettre des bâtonnets d'encens, parce que des bâtonnets d'encens c'est pas assez musulman pour le coup, ce que c'est
défendu.
Voilà. Alors qu'en fait, c'est une pratique islam musulmane traditionnelle, qui est l'islam barelvi plus traditionnel au Gujarat. Donc voilà, donc il y a vraiment ces deux concurrences, et après, enfin, ces concurrences entre les deux types d'acteurs, donc sécularistes et islamiques, sachant que maintenant on est plus sur des territoires définis, donc les relief colonies, enfin territoires définis pour les ONG islamiques, les relief colonies et les quartiers vraiment les plus paupérisés comme Fateh Valley notamment.
Et tu parlais des liens avec le Golfe. Mm-hmm. Donc c'est les liens de différentes personnes anonymes, que ça peut être des liens d'éducation pour le travail, mm-hmm. ça, les grands réseaux indiens entre mm-hmm. le Gujarat et le Golfe, ou le Kerala et le Golfe, mm-hmm. j'imagine, se retrouvent au sein de Johapura. Mais est-ce qu'il y a aussi d'autres liens plus institutionnels entre le Golfe et Johapura? Et puis est-ce qu'il y a des liens via ces ONG islamiques entre des pays du Golfe et Johapura?
Alors sur les liens déjà, parce qu'effectivement depuis les années 70 il y avait des forts mouvements migratoires vers les pays du Golfe avec à cette époque-là, mais plutôt sur des professions moins qualifiées. Là ce qui est intéressant dans le cas de Johapura, c'est que ce sont aussi les professions supérieures qui n'y vont pas pour en fait être de la main-d'œuvre pas chère dans les pays du Golfe, mais pour vraiment faire du business. Enfin, on est vraiment sur des... Il n'y a pas de notion de discrimination économique. Et sur ces liens plus institutionnels, alors je n'ai pas été faire du terrain dans le Golfe, donc je me fie uniquement à ce que j'ai su sur place. Ça fonctionne plus par ONG, association de castes musulmanes, qui donc sur pas une institutionnalisation au sens propre, pour l'ensemble de la minorité, mais plus sur des logiques, voilà, là pour le coup communautaires, et les ONG islamiques, les ONG islamiques, non, en fait elles sont plus, elles ont plus développé des réseaux au sein de, en Inde, c'est-à-dire mmh. notamment vers Hyderabad, mmh. Qui est une ville du sud de l'Inde, où les ONG des Obandi envoient pas mal de pensionnaires, enfin les orphelins les envoient... plus vers Hyderabad, puisqu'en fait c'est plus ouvert pour les musulmans et ils ont plus d'institutions là-bas. Donc c'est plus ça. C'est...
Tu écris à la fin de ton livre, et tu l'as redit dans les médias, il n'y a pas longtemps, que regarder Johapura, c'est regarder l'Inde de Narendra Modi, rien que ça. Johapura, c'est pas Little India, c'est pas une Inde en miniature. Mais est-ce que ce qui s'y passe nous dit quelque chose du sort passé, ça c'est ça, on sait que oui, mais du sort à venir des musulmans en Inde? Et plus généralement, qu'est-ce que ce ghetto nous dit de l'identité indienne actuelle, l'identité politique, ou les identités politiques? Qu'est-ce que ça nous dit de la mort de l'Inde de Nehru, la énième mort de l'Inde de Nehru?
C'est joli comme phrase.
Ouais, c'est long. C'est ça, je fais une pause. Et donc voilà, qu'est-ce que ça nous dit? Quel présage ça nous donne?
Alors, présage, ça, je sais pas. Voilà, parce que j'ai oublié ma boule de cristal. Mais sur le... Oui, en fait, pourquoi je dis ça? C'est parce que on n'est pas sur des trucs d'ethnicisation de la démocratie qui veulent pas dire grand-chose, etc. On est sur une notion... Le principe du ghetto, ce n'est pas de rejeter entièrement quelqu'un, c'est de les mettre à distance, mais de mettre à distance socialement et spatialement un groupe donné pour des raisons ethniques, mais de pouvoir garder l'exploitation économique, entre guillemets, de ce groupe. Ce qui se vérifiait, comme je l'ai dit, les stratégies de cooptation de certains membres de la minorité pour des activités business, etc., vers les pays du Golfe. Donc, cette mise à distance, elle s'observe aussi dans des villes indiennes, à Aligarh, etc., où on voit aussi un regroupement de la minorité qui n'est pas comparable avec un ghetto, enfin un quartier ethnique n'est pas un ghetto, mais il y a des stratégies de regroupement, puisque depuis l'élection de Narendra Modi, donc au printemps 2014, il y a quand même un discours identitaire qui est donc uniquement axé sur l'hindouisme, dont la journée du yoga est un truc dont on se gosse en Occident, mais qui n'est pas en fait, qui est un instrument de politique intérieure, voilà, pour imposer une vision nationaliste du monde, enfin bref, de l'identité indienne. Et donc on est surtout en fait sur une... Enfin, je considère que Johapura est... Enfin, donne des clés pour comprendre l'Inde actuelle de Narendra Modi sur cette notion en fait de citoyenneté exclusive, où être musulman... à la limite, restez là, ok, très bien, on peut pas vraiment tous vous tuer, c'est pas possible. Restez là, mais on vous confine, donc une pratique de gestion de l'espace et du social, mais pour autant, vous êtes considéré comme, enfin, vous êtes dévalué dans votre citoyenneté, puisque de fait, on ne vous fournira pas les institutions qu'on fournit ailleurs dans des quartiers hindous. Donc c'est à cet égard que je considère que c'est une loupe portée sur alors non pas la gouvernance, mais les pratiques de gouvernement de Narendra Modi. en Inde, et sur oui, l'Inde aujourd'hui telle qu'elle se dessine, sur la question de la mort entre guillemets de l'Inde de Nehru. Je pense que, enfin, toi comme moi, quand on discute avec nos amis qui sont plutôt pas trop nationalistes hindous, globalement, et avec les, enfin, les chercheurs quand on va là-bas, et bah moi de fait principalement avec des musulmans, oui, il y a une vraie remise en cause aujourd'hui, mais qui se porte là, du coup, aussi pas que pour les minorités, parce que Narendra Modi a un pouvoir très autoritaire. Il y a des répressions qui s'appliquent aussi aux intellectuels, aux journalistes. Enfin, il y a des journalistes qui sont tués. Donc, c'est une vision... Voilà, ce ghetto, qui a été formé par la force et la violence, témoigne en même temps de ce côté autoritaire du pouvoir et en même temps de ce côté ethnique, et ethnicisé, enfin, ethnique au sens que c'est une minorité ethnique qui a été stigmatisée, et de restriction de la citoyenneté telle qui n'est plus inclusive, mais exclusive et restreinte pardon, aux hindous. Voilà, c'est à cet égard.
D'accord.
Considérer la loupe.
La loupe. Tu as fini ta thèse, ton terrain de thèse, je ne sais plus quand, mais avant l'élection de Narendra Modi,
ouais,
qui était le 26 mai 2014.
Ouais.
Et tu es retournée plusieurs fois à Jaipur,
ouais,
après l'élection. Donc tu as vu l'avant et après. Est-ce qu'il y a des changements?
Bah, les changements, c'est que bah, déjà le jour de l'élection où j'étais en lien avec bah, les gens que je connais là-bas, donc ils ont été harcelés, entre guillemets, enfin les... Parce que Jaipur, en fait, comme on a expliqué, c'est entouré de quartiers hindous. Donc, à un moment donné, en fait, les hindous sont venus à ce qu'on appelle la frontière. Oui, ça, on n'a pas mentionné, mais les habitants appellent eux-mêmes les limites de leur quartier, ils l'appellent borders, enfin la frontière. C'est-à-dire qu'on... Et on va outside Jaipur. Il y a vraiment aussi toute une dimension rhétorique importante. Et donc, le jour de l'élection de Narendra Modi, déjà, les habitants pardon du quartier d'à côté hindous sont venus en fait à la frontière avec plein d'instruments de musique et aussi enfin de musique mais pour faire du bruit je veux dire et ont tiré en l'air en disant maintenant on est vraiment chez nous etc. Donc déjà bonne ambiance et puis les changements en fait alors j'y suis retournée trois fois depuis hein, mais en fait, c'est oui et non au sens où il y a une peur plus grande parce que maintenant, mais dans les discours, parce que maintenant c'est à l'échelle mondiale,
nationale,
mais en même temps, comme il y a ce discours de toute façon, on doit se débrouiller par nous-mêmes, avec toujours une foi pour la Cour suprême, la Constitution qui est protectrice, enfin ça c'est très présent, à la différence des Cachemiris par exemple, qui n'ont pas du tout ce discours, mais là les musulmans, oui, mais ceux de Jaipur ont vraiment ce discours, enfin cette foi en les institutions, Cour suprême et Constitution, en plus c'est deux éléments qui reviennent très souvent. Mais comme il y a déjà en fait ce parti pris que de toute façon on viendra pas à nous aider, il n'y a pas quelque chose de majeur. Je pense qu'à contrario, ça a été plus fort dans d'autres états. Notamment, je pense au papier d'Amina Mohamed Arif qui avait écrit là-dessus sur Bangalore, où là, pour le coup, ça a été pour eux d'autant plus fort parce qu'ils n'étaient pas du tout habitués à avoir ce genre de gouvernement. Alors qu'à Jaipur, enfin Ahmedabad, c'est dans le Gujarat, c'est comme ça depuis 1995.
Du coup, ça m'amène à ma dernière question. Tu as épuisé le...
Je t'ai épuisé.
Non, pas moi, tu as épuisé ma liste de questions. Donc, Jaipur était un quartier ethnique, puis depuis 2002, un ghetto. C'était il y a 15 ans. 15-16 ans. Donc ça veut dire qu'il y a, des jeunes, il y a toute une nouvelle génération qui ne votera pas forcément aux prochaines élections, puisqu'elles sont en mai 2019, mais aux suivantes en tout cas, qui est née là. Et du coup, est-ce qu'il y a une génération ghetto ?
Alors c'est difficile à dire parce que déjà les plus jeunes je les connais moins, enfin je les ai moins interviewés que les parents qui avaient un discours plus articulé, donc c'était plus simple quand même. Et une génération ghetto au centre, alors je vais répondre vraiment plus par piste et par où je m'en suis arrêtée moi, c'est-à-dire la dernière fois que je suis allée c'était en septembre 2016. Et c'est disons qu'il y a quand même ce fait de savoir que son état ne sera de toute façon jamais là pour soi, et quand même déjà, enfin, qu'il n'y a pas d'institutions sur lesquelles se replier, il n'y a pas du tout de foi dans la justice non plus, parce que ça, bon, c'est à l'échelle de l'Inde, mais c'est très patent aussi au Gujarat. Le taux d'incarcérés est forcément, par rapport à tout ce que je viens de dire, supérieur chez les musulmans, enfin, des personnes en prison en attente d'un procès, c'est-à-dire sans avoir été jugé, et supérieur chez les musulmans au prorata par rapport aux hindous, enfin, donc il y a aussi des discriminations institutionnelles à cet égard. Et donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Le fait aussi que beaucoup veulent partir pour s'extraire en fait, pour s'extraire de cette culture qui en même temps protège et en même temps parfois étouffe. Donc ce sont des éléments à prendre, je pense, en compte. Il y a, je vais pas du tout rentrer dans la, les questions de radicalisation, religiosité, etc. Parce que mais comme je préfère le dire, elles n'ont aucun lieu d'être. Et d'ailleurs, même s'il y a des rapports avec le golfe, ces apports, ce contact et ce regard vers le golfe ne signifient pas que on adopte le wahhabisme, puisqu'ils sont des obandis, donc ils ont ce qu'ils ont, ce qu'il faut chez eux. Et donc voilà, c'est plus par petites touches de réflexion, et c'est plutôt à cet égard que je pense qu'il faut continuer à regarder, avec aussi un œil particulier sur, encore une fois, les castes les plus défavorisées au sein de cette minorité, qui, elles, en fait, ressentent de façon de plus en plus patente cette, entre guillemets, gentrification, sans rentrer dans la notion, mais entre guillemets, gentrification du ghetto par quartier, donc, enfin, par certains endroits du quartier, donc ils se retrouvent aussi, enfin, du ghetto, donc elles se retrouvent aussi surmarginalisées. Donc voilà, c'est plus ces petites touches-là, je pense, qui peuvent nous amener à nous poser des questions sur ce que vont faire cette minorité, parce que le danger aussi est que, étant donné qu'il n'y a pas de confiance dans les partis politiques, que ce soit le BJP de fait, et également dans le parti du Congrès, Ahmedabad, qui est lui aussi très hindouisé, disons, si on ne vote plus, on n'est plus de représentants, donc du coup, les gens parlent pour vous. Donc il y a toutes ces questions-là qui sont, à essayer de mettre en perspective pour parler d'une génération ghetto qui méritera d'être documentée par les prochains.
Dans un prochain ouvrage chez Cartala.
C'est ça, bien sûr.
Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions.
Merci à toi, et puis merci à vous de m'avoir écouté.